ludique.
Avec les années, je m'aperçois que j'avais beaucoup surestimé la présence du livre dans la vie humaine. Allons lentement. Nous ne connaissons sur cette terre aucune société sans musique. Aucune. Même la société la plus rudimentaire du point de vue économique, politique, même ceux qui sont en train de crever du faim dans le désert du Gobi, ont de la musique, et souvent des musiques très complexes. Pas de littérature écrite. La littérature écrite est très rare sur ce monde. L'oralité dépasse immensément le total de l'écriture.
Hervé Rotten, bonjour.
Bonjour.
Hervé Rotten, vous êtes ethnomusicologue, docteur en musicologie de l'Université Paris 4 Sorbonne. Vous êtes directeur de l'Institut européen des musiques juives et auteur de nombreux articles, ouvrages et disques portant sur les divers aspects des traditions musicales juives en France et dans le monde. Vous animez aussi une émission mensuelle sur Radio Judaïque FM intitulée « Musique juive d'hier et d'aujourd'hui ». Et j'ai tout de suite envie de dire que la musique juive n'est pas véritablement à la mode. Lors d'un colloque qui a eu lieu récemment à Saint-Amand-Moron, donc vous étiez le co-organisateur avec la musicologue Marie-Reine Renon, à l'initiative du maire de cette ville qui s'appelle Thierry Vincent, vous avez dit que le dernier colloque organisé sur la musique juive avait eu lieu il y a 50 ans et qu'il faudrait attendre peut-être 50 ans pour voir un nouveau colloque, mais apparemment justement on prend les devants, si on peut dire. Alors nous venons d'entendre la voix de Georges Steiner et qui dit: nous ne connaissons sur cette terre aucune société sans musique. La musique n'est pas ce à quoi on pense quand on pense au judaïsme. Et pourtant, tout dans le judaïsme se fait en chantant. Lire la Torah, c'est la chanter. Psalmodier les psaumes, c'est les chanter. Étudier le Talmud, la Mishnah ou la Gemara, c'est aussi les chanter. Chaque texte a son propre nigoun, sa propre mélodie. Commençons, Hervé Rotten, si vous le voulez bien, par une définition. Qu'appelle-t-on la musique juive et quelle différence entre la musique juive et la liturgie juive? En ouverture de votre livre, vous avez cette belle image: la musique juive est au promeneur ce que le sable est à la plage. De loin, elle donne l'impression d'une surface unie, presque uniforme. De près, elle s'avère constituée de milliers de petits grains de sable, tous différents les uns des autres et provenant de matières organiques diverses. Hervé Rotten.
En fait, je vais avoir du mal à répondre à votre question parce que, d'abord, le mot musique juive, je le conjugue toujours au pluriel, comme je dis, et au pluriel de l'infini, parce que je dis toujours, il n'existe pas une musique juive, mais des musiques juives et presque autant de musiques juives que de juifs. Voyez, donc ça, c'est important de comprendre ça. Et ça fait bientôt, ça fait plus de 25 ans que je travaille donc sur les musiques juives et j'en ai toujours pas fait le tour et j'ai toujours pas réussi à en donner une définition exacte. Il y avait certains musicologues qui disaient musique faite par des juifs, pour des juifs, dans un cadre juif. C'est pas si simple que ça. Je dirais, j'en suis revenu à dire qu'une musique juive, en fait, une musique ne naît pas juive, elle le devient. C'est ça qui est très important. C'est en fin de compte le contexte d'exécution, la fonction qu'on donne à cette musique qui fait qu'elle est considérée par ceux qui l'entendent comme étant une musique juive.
On ne peut pas la cerner, il n'y a pas, vous le dites, de définition. Pourtant, il y a certaines orientations, c'est-à-dire le peuple juif, à travers son histoire, a été éparpillé à travers les différents continents. Il y a des communautés juives qui se sont installées beaucoup plus du côté, je dirais, méridional, d'autres du côté occidental, et ça a donné cette division classique que l'on fait entre séfarade méridional et ashkénaze occidental. Mais vous dites tout de suite dans votre livre que c'est beaucoup plus compliqué compliqué, beaucoup plus complexe, et qu'on peut trouver à une ville près des mélodies complètement différentes.
Oui, ce qui fait la richesse du judaïsme, c'est justement sa complexité. Non seulement on peut trouver des zones géographiques qui sont en même temps des zones musicales différentes, il faut bien comprendre que les musiques juives ont été fortement influencées par leur environnement géographique et culturel. Donc évidemment, une musique juive chantée dans le Maghreb va être beaucoup plus proche d'une musique maghrébine en général que d'une autre musique juive chantée au fin fond de la Lituanie. Mais après, en plus, comme vous le dites, il y a des variantes locales et même des variantes individuelles. Puisque une des particularités du judaïsme, c'est toujours on a une façon de ressasser un petit peu, d'essayer d'extraire de soi ce qu'on peut penser des vérités, mais toujours des choses différentes. Et ben dans les musiques, non seulement on va peut-être répéter la musique, répéter le texte, mais on va la changer de façon parfois guère perceptible. Mais les musiques évoluent. Les musiques ne sont jamais figées, en fait.
שיר המעלות לדוד לולי אדוני שהיה אלינו יאמר נא ישראל לולי אדוני שהיה אלינו בקום עלינו אדם אזי חיים בלעונו בחרות.
Hervé Rotten, nous sommes en train d'entendre une musique des psaumes chantés selon le rite constantinois. Alors là, on sent bien qu'on est dans une musique extrêmement proche de la musique orientale.
Tout à fait. D'ailleurs, cette musique utilise les mêmes modes, ce qu'on appelle les makam ou makamat au pluriel, que les mélodies arabes aux alentours. Et c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que comme en Turquie, un muezzin pourra chanter avec un chantre parce qu'ils utilisent les mêmes gammes, de la même façon, dans d'autres coins du monde, on utilisera dans les musiques juives d'autres gammes qui seront proches de, par exemple en Occident, on utilise la gamme de ré mi fa sol la si do. Mais là-bas, c'est d'autres types de modes, la modalité orientale.
Alors, de la même façon qu'il y a cette influence orientale et ces modes, comme vous le dites, on trouve de l'autre côté, je dirais, de la Méditerranée, mais on verra que c'est beaucoup plus complexe, des chants qui peuvent être inspirés aussi des traditions locales, mais peut-être qui ont une spécificité plus particulière.
Shoheine bamerahamin Hametzeim menachonechoino Alekanfei hashino Bemahalos kedo כדושים וטהורים כזוהר רכיע לירים ומזירים Senishmois Achino b'nei Yisruvei Lakidoshim v'yatehorim Shenoflu b'idei uroitzchim V'nishpichu tum Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Uvishar, Machnos, Ashimov, Bieropa, Shinehe,
antenne, nous entendons ce chant qui est extrêmement, extrêmement poignant. Et là, nous sommes en Europe de l'Est. Et on a entendu dans le chant lui-même le nom d'Auschwitz, Majdanek Treblinka. C'est le El Malé Rachamim, la prière pour les morts, chanté ici par
Shalom Katz.
Shalom Katz, qui lui-même vous raconte une anecdote assez terrible dans votre livre.
Oui, Shalom Katz est un miraculé. Shalom Katz était chantre, il a une voix splendide comme on l'entend, et on sent tellement d'émotion dans sa voix ici parce que quand il parle des camps, il a vécu la mort de très près. Il a été capturé par les nazis qui allaient en fait le fusiller, et il a demandé l'autorisation de pouvoir entonner cette prière qu'on vient d'entendre, cette prière des morts. Et les nazis, quand ils ont entendu ça, le capitaine notamment, qui devait être mélomane quand même, a été tellement ébahi par sa voix qu'il l'a laissé partir, il lui a laissé la vie sauve. En fait, il lui a dit, bon, on va boire un thé, un café, et on revient, et ils sont partis, le laissant s'enfuir. Et c'est ainsi que Shalom Katz a eu la vie sauve. Et quand il chante cet air, avec ses inflexions tellement magnifiques et tellement slaves, vous voyez, c'est aussi une des particularités de ces musiques juives d'Europe de l'Est, parce que là, on est dans des traditions ashkénazes d'Europe de l'Est. C'est-à-dire qu'on a, c'est presque du chanter pleurer. Je parle parfois de chanter parler, mais là c'est du chanter pleurer. Le sanglot est dans la voix, et ça, on est totalement imprégné par cette âme russe, cette âme slave qu'on a dans cette prière.
Alors, on vient de voir deux modes différents, enfin en tout cas deux traditions. Complètement opposé, si on peut dire, la tradition constantinoise et maintenant d'Europe de l'Est. Mais la musique dite juive, dont vous avez dit qu'on ne peut donner de définition, j'ai même vu quelque part, vous dites que c'est un objet voyageant non identifié.
Oui, un ovni, un objet voyageur ou un objet vague non identifié.
Voilà, voyageur ou vague non identifié. Cette musique, elle remonte, là on parle de périodes récentes, mais cette musique remonte à des périodes très très antiques.
Oui, à la nuit des temps. Comme le dit Steiner dans l'introduction de cette émission, c'est vrai qu'il n'existe dans le monde aucune société sans musique. Donc, les Hébreux, comme les autres peuples, ont eu une musique. Alors, à savoir à quoi ressemblait cette musique, nul ne le sait. On n'a pas encore inventé la machine à remonter dans le temps. On pense simplement que, là encore, cette musique était influencée par les grandes civilisations environnantes. Il ne faut pas oublier qu'Abraham venait de Our. Et donc, certainement, il y a cette influence aussi sumérienne. Et puis après, certainement aussi assyrienne, babylonienne. Puis par la suite, avec Joseph et égyptienne. Enfin, vous voyez, c'est une suite de grandes musiques qui ont dû influencer les musiques hébraïques. Mais on n'avait pas encore cette diversité de styles qu'on a entendu là. Les musiques dans la terre de Canaan étaient quand même stylistiquement très proches. Et ce qui a causé en fait cette diversité, c'est la diaspora, la dispersion. Je veux dire, c'est avec, en fin de compte, l'éparpillement du peuple hébreu et des juifs sur la terre que chacune des communautés ou des petits peuplements de juifs se sont enracinés dans le terroir local et ont intégré donc des éléments culturels. Il n'y a pas que la musique, il y a aussi la cuisine, il y a aussi le langage, les judéolangues. Mais la musique a été un élément privilégié d'intégration des cultures environnantes.
Et par la musique, on peut justement, parce qu'elle s'est transmise de génération en génération, retrouver toutes ces influences. Et je me suis posé la question en réfléchissant sur la liturgie. Donc, j'ai posé la question au début, quelle différence entre musique juive et liturgie ? Nous n'avons pas encore répondu. Je pense qu'on peut le faire en expliquant que la liturgie, la musique liturgique, c'est la musique synagogale. Et la musique juive, vous dites, si je me trompe, la musique juive serait peut-être non liturgique, plus domestique, Hervé Rotten.
Encore une fois, si c'était aussi simple, ça serait très bien. Mais voilà, c'est non. En fait, je pense que la musique juive, c'est un terme générique, un terme global, en fait, qui englobe aussi bien donc les musiques liturgiques. Donc les musiques, comme vous l'avez mentionné, synagogales, mais également, il y a beaucoup de musiques liturgiques dans ce qu'on appelle le culte domestique à la maison, hein, quand on chante des prières de Shabbat, quand on se réunit autour de la table du Seder de Pessah, enfin, toutes les fêtes juives, il y a une partie importante qui se fête à la maison, mais également ce qu'on appelle le cycle de la vie, c'est-à-dire quand il y a la circoncision, le mariage, il y a des airs spécifiques qui sont reliés à des événements qui sont quand même inscrits dans la vie d'un juif religieux. On ne peut pas sortir de tout à fait de l'aspect religieux. À côté de ça, il y a aussi ce que j'appellerais des chants plus populaires, qui sont des chants des berceuses, qui sont les chants de la vie de tous les jours, et qui, en fait, que les Juifs se sont appropriés, ont transformé, ont recréé, ont inventé, et qui relèvent aussi de cette catégorie qu'on appelle musique juive.
À la synagogue, il y a une musique particulière qui accompagne l'ensemble des offices, et parmi ces chants, il y en a un qui revient très souvent, qui scande la prière, qui est le Kaddish, qui a pour fonction la transition entre une partie et une autre partie de la prière. Par exemple, la prière du matin commence par des bénédictions, puis va se poursuivre par les psaumes, puis par le Shema. Mais entre chaque bloc de prière, par exemple entre la bénédiction, les bénédictions et les psaumes, il y a le Kaddish. Et ce Kaddish, donc, est une sorte de scansion qui dynamise la prière. Est-ce que c'est une prière, justement, ce Kaddish, qui a une place privilégiée dans l'ensemble de la production liturgique juive, Hervé Rothen?
Alors ça dépend en fait de quel Kaddish on parle, parce que d'abord le Kaddish se décline de plusieurs façons. Souvent on ne fait que le Hatzi Kaddish, le Kaddish, enfin la moitié du Kaddish en quelque sorte. Et comme vous le savez, il y a par moments les grands Kaddish en fait. Donc en fait les grands Kaddish ou Kaddishim, eux se chantent sur des airs bien spécifiques. Les autres sont parfois à peine, je vais dire, marmonnés ou à peine parlés, chantés d'un ton très rapide. Les grands Kaddish sont beaucoup plus solennel. Ce qui est intéressant dans le Kaddish, c'est que ça fait partie aussi de ces prières qui souvent marquent dans les communautés l'identité de la tradition de la communauté. C'est-à-dire que généralement, à chaque fête correspond un air particulier ou un ou plusieurs airs particuliers que l'on va retrouver plaqués sur différentes prières. Ça, c'est vraiment une particularité de certaines musiques juives. C'est vraiment très intéressant parce que on peut rien qu'à l'oreille savoir dans quelle fête juive on est. Par exemple, pour les grandes fêtes qu'on vient de passer, pour Kippour ou Rosh Hashanah, dans la communauté, par exemple, de rite portugaise de Buffo, il y a un air qui va revenir régulièrement, notamment sur le Kaddish, et qui va faire qu'on ne le chante que pour Rosh Hashanah. Donc, quand on l'entend, on sait qu'on a Rosh Hashanah et pas une autre fête. Et le Kaddish, donc, fait partie de ces quelques prières qui portent cette aire de fête spécifique.
À la synagogue, on va voir une sorte de panel entre des textes qui sont soit marmonnés, soit parlés chantés, soit parlés pleurés, vous avez même dit, soit quand il est psalmodié. Comment vous faites une distinction entre tous ces termes, Hervé Rothen?
Alors là aussi, je dirais la vérité dans la voix du fidèle. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est quand on lui demande est-ce que dans tel office, est-ce que vous connaissez tel chant, parce que moi j'ai beaucoup enregistré de fidèles, ça fait partie de ma mission d'ethnomusicologue, et ils me disent non, là il y a très peu d'air, et ils m'en chantent quelques-uns. Je dis mais c'est pas possible, la prière elle dure une heure, il y a que ça que vous chantez, et en fin de compte ils disent bon, non, le reste on va vite, on parle, et ils commencent à me dire une autre prière, et je me rends compte que ce qu'ils appellent le reste, on va vite, on parle, c'est quand même chanté, mais c'est chanté sur quelques notes, c'est pas un air solennel. Et c'est souvent ça qu'on appelle la cantillation, la psalmodie ou ce que j'appelle le parler chanté ou le parler murmuré, je ne sais pas comment l'appeler exactement. C'est-à-dire, c'est en fin de compte juste réciter en suivant l'inflexion de la voix sur quelques notes, c'est tout.
Hervé Rothen, nous venons d'entendre un Kaddish composé par Salomon Rossi en 1660. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Kaddish?
Alors, si vous me permettez, je pense qu'il a été composé en 1622-23 exactement.
Excusez-moi.
Il y a pas de souci. Justement, il a ce site particulier que c'est la première pièce de musique savante synagogale composée et écrite surtout qui nous est parvenue jusqu'à ce jour. Donc, Salomon Rossi, en deux mots, c'était un musicien très connu qui a été employé à la cour des ducs de Mantoue, des Gonzagues de Mantoue. Il a travaillé aux côtés de Monteverdi, qui était quand même l'inventeur de l'opéra, en quelque sorte. Et puis, c'était le temps de la contre-réforme. Les Juifs ont commencé à être chassés. En Italie, ils étaient très bien intégrés, mais là, ça s'est mal passé pour eux. On a eu la première création des ghettos, le fameux ghetto de Venise, et le terme ghetto vient de cette époque-là. Et Salomone Rossi s'est retrouvé donc contraint de se réfugier, de fuir la cour de Mantoue. Et donc, au ghetto, il a continué à faire ce qu'il savait faire, c'est-à-dire de la musique, sauf que là, il était dans un cadre véritablement juif et qu'il a écrit ses psaumes. Alors, c'est intéressant parce qu'il appelle, lui, les psaumes de Salomon. Mais on pense évidemment que c'est un hommage à Salomon le roi, mais c'est aussi un hommage à lui-même parce que Shir Hashirim Asher Lishlomo, c'est les
chants de Salomon, donc,
de Salomon Rossi. Oui. Et c'est donc le premier Kaddish qu'on a véritablement écrit dans un style baroque.
Hier était la fête, nous avons célébré à travers le monde la fête de Kippour. Et dans cette fête de Kippour, qui est un jeûne en fait de 25 heures, il y a une prière absolument centrale dans le judaïsme qui inaugure cette fête de Kippour, qui est le Kol Nidré. C'est un jour tout à fait particulier parce que même la majorité des juifs qui toute l'année ne pratiquent pas viennent à la synagogue, au point qu'il y a cette appellation touchante de juifs de Kippour, et ils viennent pour écouter, s'imprégner d'un chant qu'on appelle le Kol Nidré. Qu'est-ce que ce chant a de si particulier?
Le Kol Nidré, c'est d'abord c'est l'ouverture de Kippour, donc c'est vraiment le moment solennel. On rappellera en deux mots que Kippour, ça marque la fin des fameux Yamim Noraim, les jours redoutables, ces fameux 10 jours entre Rosh Hashanah ou Kippour, où le fidèle voit peu et fait tout pour que son nom soit inscrit dans le livre de la vie. Et ça sera vraiment à la sonnerie du shofar, qui marque la fin de Kippour, que la décision divine sera prise. Et le Kol Nidré, c'est une prière particulière dans le sens où on dit que les vœux que nous avons faits, nous souhaitons qu'ils soient non seulement exaucés, mais nous souhaitons les respecter aussi. Et alors c'est très, j'ai pas le temps de développer, mais il y a plusieurs interprétations parce qu'il y a deux versions en fait du Kol Nidré avec un problème de temps. On ne sait pas si c'est passé, futur, et c'était une prière très controversée à ce titre-là. Parce que on dit notamment que tous ceux qu'on n'aura pas pu respecter, tant pis, ils passeront à la trappe en quelque sorte. Et on a souvent reproché aux Juifs justement ce manque de parole qu'on trouvait dans la prière du Kol Nidré. Or, c'est complètement faux. C'est simplement prendre conscience de son humanité, c'est-à-dire qu'on prend des bonnes intentions, qu'on va essayer de respecter, mais qu'on est humain, on n'est pas sûr d'y arriver.
Oui, alors là, c'est ça, c'est justement cette grande leçon d'espérance, c'est-à-dire bien qu'on sache que quand on fait des vœux, peut-être parfois on n'est pas capable de les respecter, il faut continuer à en faire, c'est en fait de se projeter vers le futur, et c'est véritablement une prière de très grande espérance. Hervé Rotten, nous entendons une version classique du Kol Nidre, chantée ici par le Chazan, le chantre de la synagogue Copernic,
Monsieur Benamou,
Armand Benamou. Vous avez bien souligné que c'est un chant très très central. Il y a une homogénéité particulière de ce chant à travers le rite ashkénaze.
Oui, juste un mot pour dire que c'est peut-être la seule prière dont la mélodie est identique ou quasi identique dans toutes les communautés ashkénazes. Pas chez les séfarades. Chez les séfarades, c'est des mélodies différentes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et je ne sais pas si on a le temps de développer, mais c'est simplement ça montre que cet air s'est répandu dans toutes les communautés ashkénazes. Et il y a quelques hypothèses, en gros quatre. Déjà, on la trouve notée qu'à partir de 1765 à Berlin, pas avant. Donc, on a la preuve de son existence réelle qu'à partir de cette période-là, 1765. Une hypothèse dit que, alors ça c'est l'hypothèse un peu mystique, ça viendrait des fameuses mélodies du mont Sinaï qui auraient été données à Moïse sur le mont Sinaï en même temps que la loi orale. Évidemment, on peut en douter. La troisième hypothèse nous dit que cette mélodie a été faite au Moyen-Âge et que sa tristesse nous vient des mélodies quand il y avait des croisades et qu'on brûlait les juifs. Et pourquoi le Moyen-Âge? Parce que les Razanoutes de l'art cantorial d'Europe de l'Ouest et de l'Est ne s'étaient pas encore séparés. Donc ce qui explique pourquoi on la trouve aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. Et enfin, la dernière hypothèse, c'est que c'est inspiré d'un chant grégorien. Vous voyez qu'il y a toutes les influences dans les musiques juives qui a tellement plu qu'on le retrouve donc dans ces différentes communautés.
Et alors, il est tellement important ce chant, bien qu'il soit pendant très longtemps identique dans toutes les communautés ashkénazes. Pourtant, aujourd'hui, il y a des compositeurs qui s'attellent à renouveler la mélodie de ce texte dont nous avons souligné l'importance par rapport à cette espérance dans laquelle le juif est toujours porté. Et je pense à cette composition d'un compositeur contemporain qui s'appelle Daniel Itai, qui a choisi d'écrire un quatuor, c'est cela?
Il écrit, alors c'est Itai Daniel, un franco-israélien, et il a écrit une pièce pour chœur, petit ensemble instrumental, qui est magnifique.
Hervé Rotten, merci infiniment d'avoir été ce guide si passionné et si passionnant à travers ces musiques juives. Je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour poursuivre ce voyage. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager. Réalisation Dany Journaux. Vous retrouverez toutes les références musicales et bibliographiques sur le site de l'émission. Je vous souhaite à tous une bonne fête de Soukhot qui commencera mercredi soir prochain. Kol Touv, Leitraot, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.